La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. 5000, c'est le nombre de personnes décédées en Méditerranée en 2016. Un record, un triste record. Et pourtant, en Belgique, les demandes d'asile ont fortement chuté l'an dernier, moins 63%. Quelle réalité se cache derrière ces chiffres et que peut-on faire, nous, en tant que citoyens, face aux images de naufrages en Méditerranée, face aux droits fondamentaux bafoués de milliers de migrants? On va en discuter ce soir avec nos deux invités, François de Smet et Arnaud Zaccari. Alors bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
François de Smet, donc vous êtes directeur de Myriel, Centre fédéral migration, et vous avez publié la semaine passée votre rapport annuel. Et Arnaud Zaccari, donc vous êtes secrétaire général du CNCD 11-11-11, et vous avez organisé le week-end passé à Bruxelles les Assises citoyennes sur les migrations, en collaboration avec d'autres associations, donc comme le CIRE, Médecins du Monde, Amnesty notamment. Et vous proposez, vous, une vraie justice migratoire, on en parlera dans un instant. Alors tout d'abord, François de Smet, on a parfois le sentiment que la crise de la migration, elle est terminée, qu'il n'y a plus de camps, finalement, devant l'Office des étrangers à Bruxelles. Il y a certains centres d'accueil qui ferment. Et pourtant, je viens de le dire en introduction, on voit que les chiffres des décès en Méditerranée, eux, ne cessent d'augmenter. Alors finalement, la crise de la migration, elle est terminée, elle s'est déplacée?
Tout dépend d'où on se place. Il est vrai qu'en Belgique, vous avez une baisse significative du nombre de demandes d'asile. On est passé de 40 000 l'an dernier à un peu plus de 14 000 en 2016. Donc entre 2015 et 2016, vous avez une forte baisse. Mais le reste du monde, lui, peut témoigner que les raisons pour migrer et pour demander l'asile continuent, elles, à augmenter. On a dépassé le cap des 5 millions de personnes ayant quitté la Syrie. Le nombre de personnes déplacées de force dans le monde continue d'augmenter. Vous avez en effet toujours autant de gens qui meurent en mer. Vous l'avez dit, 5 000 personnes avaient passé, mais déjà quasiment 2 000 pour l'année 2017. C'est énorme, même si ces gens se noient un peu plus, si j'ose dire, entre la Libye et l'Italie maintenant qu'entre la Grèce et la Turquie. Donc il y a une sorte d'illusion d'optique qui est due simplement au fait que l'Europe a réussi, avec des guillemets, on n'est pas obligé de trouver ça formidable, mais elle a réussi à canaliser ce flux en grande partie composé de demandeurs d'asile qui a fait l'actualité depuis l'été 2015 par une double action installée en mars 2016. Premièrement, la fermeture physique des frontières autour de la Grèce, entre la Grèce et ses voisins. Et deuxièmement, le fameux deal. Il faut dire deal parce que le mot accord n'existe même pas dans le vocabulaire de cet accord. C'est un espèce d'accord qui n'ose même pas dire son nom. Un deal entre l'Union européenne et la Turquie qui comporte des tas de chapitres controversés qui seraient un peu complexes à détailler, mais qui, en gros, vise à décourager fortement les gens à faire la traversée entre la Turquie et la Grèce, puisque chaque personne arrivant en Grèce peut, un, est quasiment obligé de n'introduire sa demande d'asile qu'en Grèce, elle ne peut pas le faire ailleurs, et deux, est quasiment assuré d'être échangé s'il s'agit d'un Syrien contre un Syrien envoyé de Turquie vers l'Union européenne dans le cadre d'un programme de réinstallation. L'idée, et c'est souvent comme ça en migration, les mots et les politiques servent à dissuader ou à favoriser, ça dépend de quel sens on se place. Et ça a très bien marché, les flux se sont quasiment taris, ce qui n'empêche pas qu'il reste de gros problèmes avec cette population qui avait migré lors de cette crise de l'asile depuis l'été 2015. Il y a toujours des dizaines de milliers de personnes bloquées en Grèce, 62 000 même, dont une partie sur les îles, 14 000 personnes dans des hotspots qui ont une capacité de 8 500 places à peu près, et le reste sur le continent. Alors, ce sont des gens qui ne sont pas dans la même situation, mais qui sont les uns et les autres bloqués d'une manière ou d'une autre, notamment parce que l'Europe, les autres pays européens ne font pas tout à fait tous leur job en matière de relocalisation, pour en dire un mot.
On en parlera. Mais je vais juste, sur cet accord, ce deal, on va dire, entre l'Union européenne et la Turquie, je voulais vous faire réagir à Arnaud Zaccari, parce qu'au niveau du CNCD, dès le départ, vous avez dénoncé ce deal. Pourquoi, au nom de quoi?
Pour différentes raisons. Bon, d'abord, quand on voit les sommes qui sont en jeu, hein, on parle de 2 fois 3 milliards d'euros, donc 6 milliards d'euros, pour maximum 72 000 personnes, hein, dans le mécanisme qu'a expliqué François. Donc c'est maximum 72 000. Donc 6 milliards d'euros pour 72 000 réfugiés, c'est déjà cher payé. Mais surtout, en sous-traitant en quelque sorte la gestion des frontières à la Turquie d'Erdogan, non seulement ben, on prête le flanc au non-respect ou au contournement du droit d'asile, mais en plus on devient en quelque sorte vulnérable envers les enchères qui sont évidemment exploitées par ce régime vis-à-vis de l'Union européenne. Mais ce qui nous inquiète encore plus, c'est que le modèle du deal avec la Turquie, l'Union européenne veut le dupliquer avec la Libye et plus largement avec des pays d'Afrique subsaharienne. Hein, c'est ce qu'on appelle les pactes migratoires. Donc il y a des projets de pactes migratoires avec 5 pays d'Afrique subsaharienne, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Nigeria et l'Éthiopie. Là aussi, ce ne sont pas des accords, donc il n'y a pas de ratification par un parlement. On en est très loin, puisque on ne fait que l'annoncer. D'ailleurs, le premier qui est annoncé, c'était entre l'Union européenne et le Mali. Il y a déjà plusieurs mois, et le ministre des Affaires étrangères du Mali a dû, en catastrophe, dire qu'il n'y avait pas du tout de pacte migratoire. Il disait apprendre cela via les médias. Donc la Commission européenne a dû expliquer que c'était des pactes migratoires qui était simplement présenté de cette manière-là, donc c'était pas un véritable accord. Et donc on est en train d'instrumentaliser la coopération au développement pour, comme on le dit, s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière, c'est-à-dire en quelque sorte conditionner l'aide au développement aux pays les plus pauvres du monde à la mise en place de politiques migratoires restrictives, y compris à commencer par l'Afrique de l'Ouest, où, pour rappel, comme dans l'Union européenne, il y a la liberté de circulation des personnes.
Et d'ailleurs, ces politiques, elles sont financées aussi avec l'argent de l'aide au développement. Elles sont comptabilisées dans l'aide au développement.
Tout à fait. Donc on a un budget espéré de 8 milliards d'euros d'ici à 2020. Donc c'est aussi des pactes migratoires qui veulent atteindre des résultats à très court terme, hein, puisque 2020, c'est demain. Les trois quarts proviennent des fonds européens de développement. Le reste est mobilisé par les budgets des États membres sur le budget de la coopération au développement. La Belgique a mobilisé 10 millions d'euros, par exemple. Et donc le risque, évidemment, c'est qu'on détourne l'aide publique au développement, qui est déjà en baisse dans de nombreux pays, y compris la Belgique, de ses priorités que devraient être les objectifs de développement durable, puisque quand même les causes structurelles de ce type de migration, c'est quand même les inégalités mondiales qui sont abyssales, et surtout notamment d'un côté à l'autre de la Méditerranée.
Oui, c'est surtout à ça qu'il faudrait s'attaquer. Alors,
encore un mot sur la Turquie. Il est en plus savoureux de constater qu'entre-temps, la Turquie est devenue elle-même un pays producteur de demandeurs d'asile.
Oui, c'est ce que j'ai vu dans les chiffres, effectivement.
Avec 650 demandes, ce qui en fait le cinquième ou le sixième, parce qu'il y a une égalité. Bon, ça pose quand même un problème de valeur. Est-ce que, même si on a le droit, même démocratiquement, d'imaginer une politique migratoire plus restrictive, est-ce que là, le prix, en termes de valeur, visant à devoir le verrou d'autres politiques migratoires européennes à un pays qui est, lui, de moins en moins recommandable en matière de respect des droits de l'homme, est-ce que c'est tenable ? Est-ce que c'est tenable, non seulement sur les innombrables aspects pratiques, mais aussi en termes de valeur ? C'est une vraie question qu'on peut se poser.
Ouais. Alors, on parlait juste avant des relocalisations. Donc, la Commission a introduit une procédure contre ces trois pays, Hongrie, Pologne, République tchèque, parce qu'ils n'ont accueilli aucun réfugié, aucun demandeur d'asile. La Belgique n'est pas vraiment mieux lotie. Hein. On est à 16% de ce qu'on aurait dû accueillir. Du coup, ça ne fonctionne pas. C'était une mauvaise idée. C'était quand même une bonne idée, procéder.
Sur le principe, nous on pense que la relocalisation est plutôt une bonne idée, et c'est même, dans un monde idéal, ce qui devrait un jour succéder aux accords de Dublin. C'est-à-dire de se dire pourquoi est-ce que l'Union européenne, en effet, ne se partagerait pas la charge des demandeurs d'asile sur une base équitable de population, puisqu'en effet, on court objectivement le risque que certains pays, parce qu'ils sont en bordure, mais aussi parce que les demandes d'asile sont présumées peut-être plus faciles à introduire chez certains d'entre eux, puisque la procédure n'est pas harmonisée partout, malgré les objectifs européens en la matière. On pourrait imaginer que la relocalisation soit un modus vivendi et pas simplement une exception par rapport à une crise. Je crois qu'on est toujours dans le même poker menteur, c'est-à-dire que certains pays ont agi assez rapidement. La Belgique a un peu traîné des pieds. Elle a mis du temps à entrer vraiment de manière massive dans cette histoire de relocalisation. Alors, elle ne fait pas partie des tout mauvais élèves non plus, mais quand même 16%, ce n'est pas terrible. En sachant qu'il y a une controverse sur les chiffres, le secrétaire d'État à la migration considère qu'en fait, le quota auquel il doit arriver est moins grand que celui qui reste, lui, qui est attribué officiellement à l'Union européenne par la Belgique, parce que ce sont des quotas qui sont perpétuellement discutés. Donc il y a, mais dans tous les cas, le nombre absolu, lui, ne change pas. On est à 600 personnes. C'est quand même pas beaucoup quand on imagine qu'il y a, si je me souviens bien, une quarantaine de milliers de personnes qui sont concernées sur le continent grec, parce qu'il faut les, différencier des gens qui végètent sur les îles dans les hotspots. Donc, je crois qu'on doit changer d'approche sur les relocalisations. Chaque pays n'a pas envie d'en faire beaucoup plus que celui d'à côté. Chaque pays, notamment la Belgique, met la Grèce sous pression. En disant il faut d'abord que votre procédure d'asile fonctionne mieux avant que nous prenions des demandeurs d'asile chez eux. C'est vrai que les demandeurs d'asile dans une relocalisation, c'est la différence avec une réinstallation qui concerne des gens qui ont déjà une protection, ils ne sont pas sûrs du tout d'être reconnus réfugiés. Donc ce sont des gens qui vont peut-être ne pas être reconnus réfugiés, donc qui peuvent s'évaporer dans le pays après ou être potentiellement expulsés. Donc c'est vrai que c'est une vraie charge. On aurait pu, nous, la Belgique, même si on n'est pas les tout mauvais élèves, on aurait pu faire un peu mieux sur ce coup-là.
Oui, le CNCD aussi, hein, considérer que la Belgique était vraiment avec 2 sur 10.
On était gentil, 16%, donc oui, on a mis 2 sur 10 quand même au secrétaire d'État.
Arnaud Sakari, je me retourne vers vous parce que, donc, je le disais en introduction, vous avez organisé les assises citoyennes sur les migrations donc un peu partout en Belgique ces derniers mois. Ça s'est terminé donc la semaine passée à Bruxelles. Quel était l'objectif de ces assises?
D'abord, c'était d'organiser des débats avec les citoyens, les associations sur cette question migratoire qui est souvent abordée de manière très émotionnelle et nourrie d'idées fausses, voire de faits alternatifs. Donc il y avait déjà ce premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir mobiliser justement ces citoyens. On sait qu'on a des élections locales en 2018, on a des élections de régionales, nationales et européennes en 2019. Donc aussi de traduire tous ces débats en revendications pour avoir des politiques migratoires qui soient respectueuses des droits humains, qui soient cohérentes avec les objectifs de développement durable. C'est ce qu'on a voulu traduire dans ce terme de justice migratoire. Donc on va commencer à partir des mois qui viennent à mettre sur pied une campagne pour les communes hospitalières, comme on les a appelées. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à faire en termes d'accueil, d'intégration au niveau communal et de monter ainsi jusqu'à l'échelon européen, avec notamment comme François le suggérait, d'avoir une politique migratoire qui soit basée sur des critères équitables, d'avoir une politique migratoire qui ne mette pas sur les seules épaules des pays d'entrée, c'est-à-dire la Grèce et l'Italie, tout le poids de la gestion des demandeurs d'asile, mais qu'il y ait une répartition équitable entre les États membres. Si c'était le cas d'ailleurs, on parle de crise des réfugiés ou de crise des migrants, c'est en fait une crise de l'asile. Si on n'avait pas eu cette cacophonie, avec d'une part l'Allemagne et la Suède très accueillants et d'autres pays totalement opposés à toute idée d'accueillir des réfugiés, on n'aurait pas créé de tels appels d'air, de telles asymétries et de tels problèmes. Même 1 million de réfugiés, c'était une vague importante qu'on a connue en 2015, ça ne représente quand même que 0,2% de la population européenne. Donc si on avait une politique migratoire basée sur la coopération et des critères objectifs, on aurait pu éviter tout ce bruit, malheureusement pas pour rien, puisque ça alimente en plus les forces nationales populistes, qui en plus sont eurosceptiques, donc l'Union européenne se tire une balle dans le pied par ce type de politique.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'une interview qu'on a réalisée la semaine passée, justement, pendant les assises citoyennes, avec Fatou Diom. Donc, elle est écrivaine franco-sénégalaise. Elle était donc l'invitée la semaine passée des assises. Elle va ici nous parler des raisons de migrer et de liberté, tout simplement, et je vous laisserai réagir juste après.
Et de toute façon, l'immigration économique, elle sera légitime. Il n'y aura pas une meilleure balance de l'économie mondiale. Donc, ce n'est quand même pas normal que l'Europe la partage Afrique et déplace le grenier des Africains, et que les Africains qui se résignent, ils vont se battre, ils vont essayer de survivre, c'est humain. Quand il y a eu la famine en Irlande, ils sont partis en Amérique. Ça choque moins parce qu'ils étaient blancs, et les Américains là-bas qu'ils ont trouvé, ils étaient blancs. Là, c'est une migration avec des gens de couleur, des Arabes et des Noirs, on les voit physiquement, on les identifie pour savoir que ceux-là, ce sont ceux qui sont venus. Mais ceux-là, avant qu'ils ne viennent, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est pas normal d'avoir un pays qui produit du cobalt, de l'or, du diamant, du pétrole, et qui est pauvre comme un désert économique. Ce n'est pas possible. Il y a des raisons à cela. Il faut les dénoncer. Parce que si on trouve la solution à cela, on trouvera le frein à l'immigration. Personne n'aime quitter sa famille et aller dans la galère tout seul, à se faire mépriser. Personne n'aime ça. Quand on a le choix, on ne le fait pas. Moi, je ne suis pas une immigrée, je suis une voyageuse libre. Mais voilà, donc moi, je suis venue pour d'autres raisons. Je me dis toujours, je ne fais pas partie de la catégorie immigration économique. Ce n'est pas pour ça que je suis venue. Moi, je suis venue bêtement, tout simplement, pour les beaux yeux de quelqu'un. Il y a une confusion que l'Europe doit éviter. Tous les Africains qui bougent ne sont pas des immigrés ou des immigrants. Ce monde-là, c'est un monde de mobilité aujourd'hui. Pourquoi de jeunes Français ou Belges iraient-ils travailler au Canada et que de jeunes Sénégalais n'auraient pas le droit de terminer en Suisse? C'est cette mobilité internationale. Il ne faut pas exclure les pays du tiers-monde. Ils ont aussi la même soif de liberté.
Alors, je pense qu'il y a deux éléments sur lesquels je voudrais vous faire réagir dans ce qu'elle nous disait. La première chose, c'était sur le fait que finalement, tant que les richesses ne seront pas mieux équilibrées, il y aura toujours des mouvements de migration et que voilà, tant qu'il n'y a pas peut-être une justice migratoire d'ailleurs, tant qu'il n'y a pas un rééquilibrage des richesses, ça existera toujours.
Bon, d'abord, il faut rappeler quand même qu'on peut migrer pour une multitude de raisons. Donc, si on prend la question de la migration économique, hein, pour simplement avoir des revenus un peu plus décents que ceux qu'on a dans un pays extrêmement pauvre, c'est clair qu'il y a une rationalité économique à migrer vers des pays plus riches. Hein, on vit dans un monde où les inégalités mondiales sont très importantes et où on a différentes frontières nord-sud. Il y en a 7 en tout à travers le monde, où à quelques kilomètres de distance, on a de telles inégalités mondiales que si on prend les 5% les plus pauvres de la frontière sud, les 5% les plus riches de la frontière sud et les 5% les plus pauvres de la frontière nord, on se rend compte que les plus pauvres, par exemple, les 5% en moyenne les plus pauvres d'Espagne sont plus riches que les 5% les plus riches en moyenne du Maroc. Donc en effet, il faut éradiquer les inégalités mondiales, mais ça prendra du temps et donc c'est là où je suis tout à fait sceptique sur l'objectif des pactes migratoires qui serait de régler les causes premières de la migration irrégulière d'ici à 2020. Surtout que les études nous expliquent que quand un pays commence à se développer, l'immigration augmente jusqu'à un niveau de revenu de 6-7 000 dollars par habitant et par an. Donc aucun pays africain n'a atteint ce niveau de revenu. Donc ça veut dire que il faut s'attendre dans les premières années de développement de pays à ce qu'il y ait plus d'immigration, parce que migrer ça coûte cher. Et qu'à partir du moment où on commence à avoir un peu plus de revenus, ben on a plus d'opportunités justement de tenter l'aventure. Donc il faut vraiment un travail. On a l'agenda 2030, hein, les objectifs de développement durable, c'est un agenda 2030. Là, on a un horizon qui est un peu plus réaliste pour réduire, hein, si pas éradiquer, ces inégalités mondiales. Ça ne veut pas dire après que l'immigration, c'est quelque chose de mauvais, mais en tout cas que ça permette à tout citoyen du monde de vivre décemment là où il est né, puisque à la différence de la fin du 19e siècle où la principale cause des inégalités mondiales, elles étaient internes, c'était les inégalités de classe. Aujourd'hui, c'est l'endroit où on est né qui détermine les trois quarts des inégalités mondiales. Donc on est passé de l'ère des prolétaires à l'ère des migrants. Et donc c'est cette injustice qu'il faut régler.
François Le Smet, dans ce que Fatou Diom disait aussi, il disait qu'il fallait, qu'aujourd'hui la liberté de circulation, finalement, elle était réservée aux Blancs européens et pas aux Africains.
Mais il y a quelque chose de très vrai. D'abord, c'est intéressant parce qu'on ne fait peut-être pas assez, d'expliquer que les demandeurs d'asile et les migrants ne recouvrent pas les mêmes réalités. Bien sûr, tous les demandeurs d'asile sont des migrants, mais tous les migrants ne sont pas des demandeurs d'asile. Et porter le débat, notamment, comme l'a fait le CNCD, est précieux à cet égard, parce que la confusion dans la population est très forte. Et de fait, alors, si on veut parler en termes de justice, c'est vrai qu'en attendant ce jour où les chances d'évolution et les richesses seront mieux réparties, c'est quand même très difficile moralement de justifier que nous trois, certainement, on a des passeports qui nous permettent d'aller voyager dans à peu près tous les pays du monde, et peut-être même d'aller nous établir dans nos pays. C'est pas pour ça que ça va être simple. Mais si vraiment on veut aller s'établir au Canada ou dans d'autres pays, riches ou pauvres, c'est possible. C'est beaucoup de chipots, mais c'est possible. La plupart des gens sur cette planète ont des passeports qui ne leur permettent d'aller nulle part. Là, il y a quand même un problème. C'est que si vous et moi, nous migrons, nous allons le faire par une sorte de luxe, mais on n'est pas obligé de le faire pour réussir nos vies. C'est quand même ça la grande différence. Et tous ces gens qu'on appelle migrants économiques, même si c'est plus compliqué que ça, on peut migrer pour une pluralité de raisons en même temps, en ce compris pour des raisons à la fois politiques et économiques. C'est nous qui avons des classes, des cases un petit peu simples par lesquelles les gens arrivent. Mais prenons ces besoins économiques au sérieux, puisque je pense que l'avenir, c'est aussi d'inventer des canaux migratoires qui tiennent davantage compte des motifs réels pour lesquels les gens viennent nous voir et qui soient davantage justes. C'est pas tellement la pauvreté, moi j'appellerais ça plutôt le désœuvrement. Et le désœuvrement, c'est l'idée de dire, si je reste ici, sur cette terre où je n'ai pas choisi de naître, je n'ai aucune chance de vivre une vie digne ou simplement conforme à l'idée que je me fais de la dignité humaine et je ne peux pas me réaliser. Si en plus, parce que les désirs viennent toujours de là, qu'est-ce qu'il est possible que je fasse, comment est-ce que je peux exercer mes talents, si en plus vous êtes ballotté d'images qui viennent du web ou de télévision qui montrent à quel point, même si ce n'est pas l'Eldorado tout le temps, d'accord, à quel point dans le Nord par exemple il est possible de faire des choix de vie beaucoup plus diversifiés. Je crois que là, on a une pression qui est complètement irrésistible et c'est le manque de perspective qui va pousser toujours, quelles que soient les barrières, quels que soient les dangers, quels que soient les comportements odieux des passeurs d'êtres humains qui sont les premiers à enfreindre les droits des migrants, rappelons-le. Quels que soient ces risques, ces gens vont continuer à les prendre parce que je crois que c'est une pression indépassable et elle perdurera en effet tant qu'il y aura une certaine injustice. Donc je suis d'accord avec Arnaud. On doit évidemment travailler au développement de ces pays de manière beaucoup plus forte. C'est pas normal que ces pays ne puissent pas profiter, je suis pas expert dans la question, mais ça choque objectivement, des matières premières d'une manière plus juste. Deuxièmement, en attendant, c'est quand même compliqué de refuser à toute personne qui veut venir le droit de venir, point. Ça veut pas dire qu'on peut accueillir tout le monde, c'est pas possible non plus, mais entre les deux, c'est souvent comment je résume les choses, si on ne veut ni de l'Europe forteresse qui est impossible et en plus criminel, puisque ça veut dire se laisser noyer des gens, mais qu'on est d'accord que ouvrir toutes les frontières du jour au lendemain, c'est pas non plus possible, parce que ça va déstabiliser les pays et que c'est pas nécessairement juste, parce que vous n'allez pas forcément amener ou faire amener les migrants qui en ont le plus besoin, mais simplement ceux qui ont déjà un peu de capital et un peu de culot pour y arriver. Si vous êtes d'accord que ces deux solutions-là ne mène nulle part, alors il reste un juste milieu qui est le champ de la politique migratoire. Comment ouvrir plus de routes? Comment combiner aussi, moi ça ne me choque pas, la question non seulement de nos valeurs, mais aussi de nos intérêts, des intérêts européens, des intérêts des pays d'Afrique et des intérêts des migrants eux-mêmes. Pourquoi ne pas aborder la question de la migration économique en oubliant ces œillères à gauche comme à droite qui en font un gros mot dès qu'on commence à en parler?
Mais du coup, ce que vous nous dites un peu, c'est que finalement, la liberté de circulation totale, telle qu'elle est présente dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une utopie, mais que concrètement, il y a peut-être des choses à faire pour améliorer la situation. Mais du coup, quelles choses très concrètes? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour améliorer ça?
Ouvrir davantage de routes migratoires, travailler l'opinion publique comme des gens comme nous essayent parfois de le faire, ou comme Amnesty en échangeant des positions de demandeurs d'asile, voyager ou faire voyager les jeunes pour qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être ici et qu'il est injuste simplement se barricader en se disant que les autres n'avaient qu'à naître du bon côté de la barrière, agir pour le commerce équitable. Là, Arnaud peut prendre le relais sur tout ce qu'il est possible de faire. Mais il y a des tas de, c'est une goutte d'eau, mais il y a déjà des tas de choses qui se font. Je crois qu'il faut encourager ces efforts-là et pas attendre une grande réforme d'un gouvernement mondial qui règle les choses. Ça va se faire petit à petit, tout ça.
Ouais. Votre point de vue peut-être là-dessus, Arnaud Zaccari?
Oui, tout à fait. Enfin, ce qu'il faut faire, c'est avoir une prospérité internationale et d'essayer d'éradiquer les inégalités mondiales, mais on n'y est pas encore. Donc, entre-temps, il faut avoir des politiques migratoires qui soient basées sur des critères clairs d'abord. Et donc, ça implique en effet de sortir à la fois des idéologies, mais aussi du caractère émotionnel qu'on peut avoir. C'est clair que si la vague de réfugiés était arrivé à un moment où on nous répétait en crise économique et sociale en Europe, sans doute que les réactions de certains auraient été différentes. Donc avoir des voies sûres et légales pour éviter tous ces morts, parce que dire 5 000 morts, ça ce n'est pas très concret, mais quand on sait que les trois quarts des migrants qui sont morts en mer en 2016 l'ont été dans la Méditerranée, alors que l'Europe n'accueille pas toute la misère du monde, loin s'en faut, hein, on n'accueille que 6% des réfugiés dans le monde. 9 réfugiés sur 10 dans le monde sont accueillis dans des pays en développement. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on est en train de créer des bombes à retardement à nos frontières. Il n'y aura pas de prospérité en Europe si le voisinage de l'Europe n'est pas prospère. Or, hein, on voit un pays comme le Liban où un citoyen sur 4 est un réfugié qui vient essentiellement de Syrie. C'est évidemment intenable, déjà dans des pays qui sont pauvres, qui sont instables politiquement depuis longtemps. Donc on est en train de nouveau d'utiliser la politique de l'autruche, alors que ce qu'il faut, c'est avoir une véritable politique européenne de voisinage. C'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de notre voisinage. Or, ben, pour l'instant, on a plutôt l'impression que la priorité, c'est de se barricader derrière une Europe forteresse qui est contre-productive, puisque quand on voit les courbes démographiques, on aura de toute façon besoin de migration en Europe pour, si on veut, oui, en tout cas ça, maintenir notre modèle social et garder une balance entre actifs et inactifs.
Mais justement, par rapport aux politiques, alors pour terminer, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais pour terminer vraiment sur la question politique, la semaine passée, le Theo Franken, donc le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, à la sortie du rapport donc, de Myria, a dit qu'il y avait certaines recommandations avec lesquelles il était d'accord et qu'il serait prêt à suivre. Est-ce que vous savez lesquelles finalement?
Il parlait des visas humanitaires, parce qu'on on a fait notre focus sur ce sujet.
Ouais.
Et il a, alors, c'est un sujet énorme à aborder qu'on n'a pas le temps de. Mais enfin, en résumé.
En gros, ça manque de transparence.
Ça manque de transparence, point de vue chiffres. On a fait un gros boulot pour aller chercher les chiffres là où ils sont. Et, parce que la Belgique se dit très généreuse en termes de visas humanitaires, ce qui est vrai, mais elle oublie de préciser qu'elle a compté s'est réinstallée dedans, donc des gens qu'elle doit de toute façon amener par le biais d'accords européens, et que pour le reste, ce sont surtout, pour le faire court, des réfugiés sur invitation, donc des gens que certes on secourt, mais qui font l'opération de plans de sauvetage globaux, 300 chrétiens syriens par-ci ou par-là. Et là, on dit, à côté de ça, enfin, bien sûr, s'il y a des opérations de sauvetage, tant mieux pour les intéressés, mais c'est pas tout à fait juste vis-à-vis des gens qui font leurs demandes de l'extérieur. Et là où il avait semblé dire qu'il y avait une marge de discussion possible, on verra, c'est de dire, mais peut-être précisons davantage les critères, faisons comme un peu comme pour la régularisation, faisons en sorte que ce soit beaucoup plus clair, parce que là, pour l'instant, et c'est paradoxal, une famille de Syriens, comme les deux familles médiatisées, qui fait une demande de visa humanitaire depuis l'extérieur, n'a quasiment aucune chance, qu'on n'a pas trouvé de statistiques où quelqu'un avait réussi par ce biais-là à obtenir un visa humanitaire. Alors que si cette même famille avait payé des passeurs, était passée en Grèce et puis avait réussi à imposer sa présence sur le territoire belge pour ensuite introduire une demande d'asile, cette même famille aurait eu 97% de chances d'être reconnue. C'est un peu dommage de ne pas encourager les gens qui respectent l'intégrité de notre territoire et qui jouent le jeu à distance de demander un visa humanitaire. Là, il y a sans doute quelque chose à faire.
Arnaud Zakari, par rapport aux discussions que vous avez eues aux assises citoyennes sur l'immigration, est-ce que vous avez l'impression que les citoyens, la population, elle est prête à faire bouger les choses et elle à faire passer justement le message aux politiques locales peut-être d'abord, aux politiques régionales ensuite? Est-ce qu'il y a quand même une volonté des citoyens derrière pour faire bouger?
Il y a une volonté des citoyens. Maintenant, il y a une partie des citoyens qui veulent faire bouger les choses dans un sens et une autre partie dans un autre sens. Mais ce dont on a besoin, à mon avis, c'est là d'ailleurs une organisation comme Myria est très importante, c'est d'avoir de l'information objective. Mmh. Parce qu'il y a tellement de faits alternatifs qui circulent sur les réseaux sociaux notamment, mais pas uniquement, y compris dans les médias traditionnels, que finalement, à force de répéter des idées fausses, on finit par les croire, mais on ne peut mettre sur pied des politiques efficaces que si on fait le bon diagnostic. À commencer par le fait que ce n'est pas une crise des réfugiés, mais une crise de l'asile. Okay. Alors, à ce moment-là, il faut avoir des politiques migratoires et d'asile qui soient cohérentes et efficaces.
Et d'ailleurs, quand on parle de juste information, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une différence, effectivement, entre les demandeurs d'asile et les migrants. Alors, juste pour reprendre les chiffres, justement, de Myria, on sait que les personnes qui ont le plus migré, les nationalités qui ont le plus migré en Belgique, c'est la Roumanie, la France, les Pays-Bas, c'est pas la Syrie, c'est pas l'Érythrée. C'est...
Non, de manière classique, les migrants légaux qui obtiennent un titre de séjour sont à plus de 60% des Européens. C'est encore le cas cette année, avec quand même c'est les Roumains qui prennent une place de plus en plus importante. Rendez-vous compte, ils font 11% de tous les migrants. C'est quand même intéressant à souligner, peut-être dans une perspective de réflexion économique.
Il faut aussi savoir que les demandeurs d'asile n'entrent dans les statistiques qu'une fois qu'ils sont reconnus réfugiés, avec donc toujours un temps de décalage. Ce qui fait que, mais classiquement, même en tenant compte de cela, ils n'arrivent que comme troisième ou quatrième motif. Là, cette année, exceptionnellement, ils arrivent très très haut comme deuxième motif, mais quand même loin, très loin derrière les motifs principaux que sont le regroupement familial et les raisons liées à la famille. Mais en effet, c'est une bonne statistique pour montrer que la migration est composée de bien autre chose que les flux d'asile.
En tout cas, merci à tous les deux, donc Arnaud Zaccari, François de Smet, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Catherine Aix pour notre dernière émission avant l'été. Une émission la semaine prochaine qui s'intéressera à la pilule du lendemain et au planning qui compte entrer en désobéissance. Et quant à moi, je vous retrouverai fin août à la rentrée pour de nouvelles émissions inédites de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.